Laudetur Jesus Christus.
L'exemple de Marie nous aide à croire dans l'amour de son fils. Les mots du pape François ce matin lors de l'audience générale au Vatican. Le pape qui a poursuivi ses catéchèses sur l'enfance du Christ. Nous y revenons en détail juste après ces titres. À la une de l'actualité internationale, les réactions qui se multiplient dans le monde suite aux propos de Donald Trump hier soir de vouloir prendre le contrôle de Gaza, propos tenus en présence du Premier ministre israélien. Nous retrouverons notre correspondante à Jérusalem. Au sommaire également, une pause dans les combats dans le sud Kivu, mais la situation y reste très précaire. Et puis nous irons en Afghanistan, où les talibans poursuivent leur politique de répression contre les femmes. Radio Begoum, l'une des rares radios consacrées aux femmes, a été suspendue. Réaction dans ce journal de l'ONG Reporters sans frontières.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonjour et bienvenue dans ce journal, dans la salle Paul VI au Vatican. Le pape François a poursuivi ce mercredi matin son cycle de catéchèse sur l'enfance du Christ avec l'évangile de la Visitation. Souffrant d'un léger rhume, le Saint-Père a préféré laisser un officiel de la secrétaire d'État lire sa catéchèse. Un texte, Jean-Benoît Harel, dans lequel François a invité chacun à suivre l'exemple de Marie, l'exemple de celle qui a su attendre l'accomplissement des promesses du Seigneur.
Oui, Olivier, l'évangéliste Luc raconte la visite de la Vierge Marie, enceinte de Jésus, à Sainte Élisabeth, enceinte elle de Saint Jean-Baptiste. Après l'annonce de l'ange, Marie se lève, ne craint pas les dangers et part à la rencontre du monde. Selon le Saint-Père, ce geste illustre la disponibilité illimitée de Marie et est motivé par l'amour de Dieu qui saisit et met en mouvement. Auprès d'Élisabeth, la mère de Jésus vient partager sa foi dans le Dieu de l'impossible et son espérance dans l'accomplissement de ses promesses. François s'est ensuite arrêté sur la prière du Magnificat que Marie prononce en rencontrant sa cousine, un chant de louange à Dieu en souvenir de la libération d'Israël. Elle chante la grâce du passé, mais elle est la femme du présent qui porte l'avenir en ses entrailles, a poursuivi le souverain pontife. L'accueil de l'enfant Jésus n'est pas un simple épisode, mais s'inscrit dans le flot ininterrompu d'amour miséricordieux de génération en génération sur le peuple fidèle à l'Alliance depuis Abraham. Ainsi, le pape a invité à s'inspirer de l'exemple de Marie, d'accueillir le Seigneur dans nos vies, car comme le disait saint Ambroise, toute âme qui croit et espère conçoit et engendre le Verbe de Dieu.
Jean-Benoît Harel, merci beaucoup. Une audience à retrouver bien sûr sur notre site vaticannews.va. Le pape qui, à l'issue de cette audience générale, a une nouvelle fois invité les fidèles à prier pour les contrées en guerre, l'Ukraine ou encore Israël. Souvenons-nous également des réfugiés palestiniens et prions pour eux, a lancé le Saint-Père. Le Moyen-Orient, justement, plus que jamais au cœur de l'actualité. Au lendemain de cette rencontre à la Maison-Blanche entre Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président américain a surpris le monde entier, affirmant que les États-Unis souhaitaient prendre le contrôle de la bande de Gaza, une vision transactionnelle où le milliardaire souhaite faire du territoire palestinien la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ce sont ses mots. Discours qui a ravi l'extrême droite israélienne, comme le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui a promis ce matin d'enterrer définitivement l'idée d'un État palestinien. Des propos qui sont évidemment de toute autre nature du côté des Palestiniens. La direction palestinienne et toutes les factions rejettent catégoriquement le plan Trump, appelant à la fin de l'occupation israélienne et à la mise en œuvre d'une solution à deux États pour garantir la paix et la stabilité dans la région. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
L'OLP, la présidence ainsi que toutes les factions palestiniennes ont réitéré en bloc leur refus catégorique de tout plan d'expulsion des Palestiniens hors de leurs terres, notamment des 2 300 000 enfants et adultes de la bande de Gaza. Le secrétaire général de l'OLP a rappelé que seule l'application de la loi internationale et la mise en œuvre de la solution des deux États garantiraient la sécurité, la stabilité et la paix. Sur un ton plus personnel, dans un message sur son compte X, il a déclaré « C'est ici que nous sommes. C'est ici que nous avons vécu et c'est ici que nous resterons. » De son côté, le haut cadre du Hamas, Sami Abu Zohri, a qualifié le plan du président Trump d'une recette pour produire le chaos et de la tension dans toute la région, soulignant que ce qui est nécessaire, c'est de mettre fin à l'occupation et à la colonisation israélienne et non d'expulser le peuple palestinien de sa terre. La direction palestinienne a par ailleurs salué la position des pays arabes qui refusent catégoriquement de participer à ce plan d'expulsion. Le président Abbas a également remercié l'Arabie saoudite qui a réaffirmé affirmé qu'il n'y aurait aucune normalisation des relations avec Israël sans la création d'un État de Palestine souverain. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui s'est envolé pour la Jordanie ce mercredi afin d'y rencontrer le roi Abdallah II, le souverain jordanien qui lui sera attendu à la Maison-Blanche par Donald Trump le 11 février prochain. Les réactions sont également nombreuses dans les chancelleries occidentales. La diplomatie française dénonce les déclarations du président Trump d'hier soir, les jugeant dangereuses pour la stabilité et le processus de paix. Les Palestiniens doivent pouvoir vivre et prospérer à Gaza, pour sa part, rappelé le ministre britannique des Affaires étrangères. Et puis Donald Trump se prononce également sur l'Iran. Il a affiché ce mercredi le souhait de parvenir à un accord de paix avec Téhéran sur le dossier du nucléaire. Hier, il prenait une politique de pression maximale sur le régime des Mollahs. Je préférerais de loin un accord de paix vérifié sur le nucléaire qui permettra à l'Iran de croître et de prospérer pacifiquement, vient de déclarer Donald Trump dans un message sur son compte, sur sa plateforme Truth Social. Un autre terrain de guerre, c'est celui bien sûr de l'Ukraine. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se disait prêt à des négociations directes avec son homologue russe Vladimir Poutine. Déclaration vide de sens, réagit le Kremlin ce mercredi. Le porte-parole de la présidence russe qui souligne néanmoins que Moscou restait ouvert à l'idée de négocier, estimant, je cite, que la réalité sur le terrain devrait convaincre Kiev de faire preuve d'ouverture et d'intérêt pour de telles négociations. Et justement sur le terrain, les troupes russes qui poursuivent leur avancée dans l'est du pays. L'armée russe a annoncé ce matin avoir pris deux nouveaux villages dans l'est et le nord-est du pays. Partons désormais sur le continent africain et ce cessez-le-feu humanitaire décrété dans l'est de la RDC où depuis deux semaines, les affrontements entre l'armée congolaise et ses alliés contre des milices comme le M23 soutenu par le Rwanda se sont intensifiés. La situation reste néanmoins très précaire pour les habitants des provinces du Kivu. En attendant, les présidents congolais et rwandais sont annoncés en fin de semaine pour une rencontre et afin de dénouer cette crise. Les précisions de notre correspondant à Goma, Augustin Mossangué.
C'est un communiqué du 3 février qu'il annonce. En réponse à la crise humanitaire, le M23 déclarait un cessez-le-feu à dater du lendemain pour, je cite, de raisons humanitaires. Ce communiqué de la Orange Cayuca, point focal communication de la rébellion, annonçait également la non-intention du M23 de prendre Bukavu, capitale du Sud Kivu, et les autres localités. Ce communiqué exhorte la force de la SADC, la Samir DRC, de retirer ses forces car leur mission n'a plus lieu d'être. Dans le site Kivu, malgré le cessez-le-feu, la société civile dit craindre le pire, car le M23 serait en train de se réorganiser. Une accalmie s'observe les dernières 24 heures sur la ligne de front, sur la route vers Bukavu. Si le bilan humain s'alourdit à Goma, diplomatiquement un schéma s'organise. Les évêques catholiques du Congo semblent vouloir jouer un rôle important dans la résolution de la crise. Ils ont commencé des concertations à Kinshasa, où lors d'un congrès, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé que le président congolais est désormais prêt à dialoguer, mais pas pour vendre le Congo. Une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame est annoncée ce week-end au Kenya. Goma, Augustin Mossangué, Radio Vatican.
En Afghanistan, les talibans poursuivent leur répression envers les femmes. En témoigne la fermeture de Radio Begoum, l'une des rares stations indépendantes du pays, créée par une femme et destinée aux femmes. Une décision préoccupante pour Célia Mercier de l'ONG Reporters sans frontières.
Au cours des trois dernières années, la répression des journalistes afghans n'a cessé de s'intensifier et on observe aussi un durcissement idéologique ces derniers mois. En 2024, les autorités talibanes ont fait fermer au moins 12 médias, publics et privés, dans 6 provinces d'Afghanistan. De nombreux contenus sont interdits, comme la critique des talibans, la musique, les séries considérées comme contraires aux valeurs de l'islam. Et dans certaines provinces également, la diffusion d'images représentant des êtres vivants. À Rost, les femmes n'ont plus le droit d'appeler les radios. Donc depuis le retour au pouvoir des talibans, au moins 141 journalistes ont aussi été victimes d'interpellations ou de détentions, et tout particulièrement les collaborateurs de médias internationaux ou en exil qui sont particulièrement visés et qui sont accusés de dénigrer les talibans. Le retour au pouvoir des talibans a vraiment sonné le glas de la liberté de la presse en Afghanistan et les médias locaux vivent dans un climat de peur et doivent diffuser des informations censurées. Donc le soutien qui peut être apporté serait pour les médias en exil qui sont une cinquantaine et sont animés par des journalistes afghans réfugiés à l'étranger. Ces médias ont un rôle crucial pour délivrer une information non censurée au public afghan.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Delphine Allaire, que vous retrouverez à 18h ce soir pour une nouvelle édition. D'ici là, rendez-vous sur notre site internet pour retrouver toutes nos informations. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.